L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors Maud, nous avons passé quasiment 6 émissions à passer en revue les charismes de l'homme et de la femme et leur communion et toute cette croissance vers l'accueil à nouveau renouvelé de la révélation pour l'homme et pour la femme. Et là, nous entamons une série de 4 émissions sur la question de la vocation.
Oui, la question de la vocation, c'est aussi toute la question du discernement de ma vocation et qu'est-ce que c'est que la vocation et comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer sur ce chemin du choix.
Voilà, et donc toute la question de la vocation, notamment mariage et célibat. Et pour cela, il est vraiment indispensable de saisir l'ensemble de la révélation sur ces différents sujets, toute la pensée de l'Église. Et pour cela, nous allons beaucoup nous appuyer sur la pensée, les écrits, les paroles de Jean-Paul II, qui est le plus grand catéchiste de l'histoire concernant le mariage, et qui va justement beaucoup, notamment, développer les appels, la complémentarité, le discernement entre ces deux vocations, célibat ou mariage. Et ce qui est aussi merveilleux, c'est de voir combien sa pensée s'inscrit dans une lecture renouvelée et approfondie de l'expérience bimillénaire de l'Église concernant cette question, et à la fois en faisant un mix, si on peut dire, une synthèse de la tradition latine et de la tradition byzantine. Et, voilà. Et en cela, c'est deux approches qui sont vraiment qui sont très complémentaires.
Alors, nous allons commencer par le texte de Matthieu 19 que nous avons déjà lu, et cette fois-ci jusqu'au bout de ce passage. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit homme et femme, et qu'il a dit, ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère, pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie ? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Les disciples lui disent, mais si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas un expédient de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais cela à qui c'est donné. Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent ?
Texte, on l'a beaucoup utilisé depuis maintenant 15 mois, où nous travaillons, nous méditons avec vous sur l'évangile pour le couple. Et ce texte, nous voulons aujourd'hui, je dirais, le méditer sous l'angle justement de ces deux vocations qui sont évoquées par Jésus devant les pharisiens, puis après devant les apôtres. Et finalement, que ça soit pour le mariage ou que ça soit pour le célibat, Jésus souligne bien que c'est pas facile de comprendre le mariage et le célibat spontanément comme vocation pour suivre le Christ, puisqu'il souligne à chaque fois, tous ne comprennent pas ce langage quand il parle du mariage, et concernant le célibat pour le royaume des cieux, qui peut comprendre qu'il comprenne. Et donc Jésus dans ce texte aborde tour à tour les deux états de vie, celui du mariage et celui du célibat. Et pour chacun, il en révèle finalement l'exigence et la particularité.
Voilà, c'est-à-dire que pour l'un comme pour l'autre, c'est quelque chose de tellement incroyable aux yeux des hommes qu'il faut l'intervention, je dirais, divine. C'est-à-dire qu'il faut recevoir ce don qui nous permet de réaliser ces deux vocations. Pour le célibat, bien sûr, Être eunuque pour le royaume des cieux, c'est-à-dire garder un célibat consacré pour le royaume, c'est une folie pour les hommes. De la même façon, demeurer dans la fidélité et dans le mariage jusqu'à la fin de sa vie avec le même homme ou la même femme, c'est une folie pour les hommes. Et c'est quasiment impossible à réaliser.
Et c'est pour ça d'ailleurs que les apôtres, dans cette discussion avec Jésus, la parole est très claire, les apôtres sont dit abasourdis. Comme si jamais ils avaient reçu un énorme coup sur la tête, en disant mais je veux dire si jamais c'est ça, être fidèle jusqu'au bout, si jamais il faut appliquer ce qui est dit à la Genèse, mais si telle est la condition de l'homme, disent les apôtres envers la femme, mais il n'est pas expédient de se marier, mais c'est pas réalisable, c'est pas réalisable. Et donc que ça soit le célibat pour le royaume ou que ça soit le mariage pour le royaume, c'est effectivement folie pour les hommes, hein, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. Voilà, folie pour les hommes, c'est vraiment c'est ce qui est invraisemblable.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le contexte de l'époque, l'une et l'autre vocation telles qu'elles sont présentées par le Christ sont une nouveauté radicale. Rester fidèle à une seule femme ou un seul époux toute sa vie, c'est déjà étonnant. Et c'est toute la révélation biblique qui a cherché à nous montrer ce modèle du mariage. Et Dieu sait si les générations ont eu du mal à arriver jusque cette maturité-là de la compréhension du mariage. Et de même, être célibataire pour le royaume, pour les juifs de l'époque, c'est complètement inconcevable. On ne pouvait pas rester célibataire. C'était comme une sorte de malédiction. Il fallait absolument se marier pour engendrer des enfants parmi lesquels sans doute viendrait un jour le fameux Messie que tous attendaient. Or voilà, le Messie est arrivé et tout change. Le royaume peut aussi être signifié par ces célibats choisis, consacrés totalement à Dieu. Et c'est une radicalité tellement incroyable que là aussi les disciples ont dû en être abasourdis.
C'est là aussi tout justement le débat entre la nature et la grâce. Et le Christ montre bien, au travers de ses paroles, que pour réaliser telle ou telle vocation, c'est difficile de le comprendre, mais on ne peut finalement le comprendre que si jamais cela nous est donné. Et ce don, c'est justement tout le sens, toute la théologie de la grâce dans l'Église, c'est-à-dire vraiment un don particulier du Seigneur qui fait que nous pouvons comprendre alors que le simple esprit humain ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'à un moment, si on raisonne qu'à un niveau humain, c'est effectivement folie pour les hommes.
Mais avec la grâce de l'Esprit Saint qui peut envahir nos vies, alors l'un et l'autre appel deviennent possibles. C'est-à-dire qu'en nous laissant à la fois pénétrer du salut qui est donné par le baptême en Jésus-Christ, nous pouvons aussi, en accueillant l'Esprit Saint, être rendus capables de rentrer dans l'une ou l'autre de ces vocations qui sont l'une et l'autre un appel du Christ spécifique pour la vie d'aujourd'hui.
Voilà, ce don, comme tu le dis, Maud, c'est un don du Saint-Esprit, mais aussi c'est le don de l'œuvre du salut, de la rédemption, comme on dit au plan théologique, réalisé par Jésus-Christ, par son œuvre de salut, par l'œuvre de sa Pâque, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, et fruit de la rédemption que nous accueillons jour après jour dans le mystère de l'Église et de l'Eucharistie. Et c'est vraiment ce don qui nous permet d'accueillir chacune de ces vocations, mais pour répondre à l'appel de l'un et de l'autre, surtout comme nous sommes dans une phase de discernement, on pense notamment aux différents jeunes, aux différents fiancés, aux différents jeunes qui se posent la question d'une vocation célibat consacré, comme prêtre, comme religieux, comme moine. Il faut donc, pour saisir et pour accueillir ce don, il faut au préalable reconnaître la particularité, la spécificité, la beauté de chacune de ces voies royales vers la sainteté. Royal parce que c'est bien en raison de notre baptême qui nous a fait roi, prêtre et prophète.
Voilà, donc il ne faut pas oublier que dans la vision que Jésus nous déploie dans ce texte de Matthieu, c'est bien une question de radicalité de suivre le Christ. Si nous voulons suivre le Christ, nous avons deux façons, si je puis dire, de l'incarner dans notre réalité. C'est en accueillant cet appel à la sainteté dans le mariage ou dans la vie consacrée dans le célibat. Ce sont deux chemins de sainteté spécifiques, différents, et nous allons prendre le temps de les détailler, mais ce sont deux voies qui mènent l'une et l'autre vers le royaume, à condition qu'elles soient vécues en Christ et en recevant ce don de l'Esprit-Saint.
Et face à ces effectivement deux possibilités, en accueillant la grâce du Seigneur, chacun de nous, chacun des hommes qui est en phase de discernement, a un choix profondément libre à poser, mais un choix aussi clair. On ne peut pas rester entre les deux voies. Il faut poser un acte. Connaître et aimer le Christ conduit à poser ce choix. Et c'est pour ça que Jean-Paul II, qui a profondément, je dirais, disséqué, approfondi cette réflexion, nous dit dans son encyclique consacré au mariage, la révélation chrétienne connaît deux façons spécifiques de réaliser la vocation à l'amour de la personne humaine dans son intégrité, le mariage et la virginité. L'une comme l'autre, dans leur forme propre, sont une concrétisation de la vérité profonde de l'homme et de son être à l'image de Dieu.
Il s'agit donc bien de deux voies qui nous permettent d'aimer le Christ, de le servir et de servir nos frères. Donc certes, il y a un appel, mais cet appel est entendu à partir de notre liberté humaine qui est de poser un choix pour le plus grand bonheur. Et nous savons que l'une et l'autre voie mènent au plus grand bonheur. La question pour nous est de savoir comment discerner celui qui nous convient, mais sur ce thème, sachons bien qu'il y a deux voies, le célibat et le mariage.
On se retrouve dans un instant pour continuer dans cette méditation sur la vocation. À tout de suite. Prenons notre méditation sur la parole de Dieu et l'enseignement de l'Église concernant la question des deux vocations. Et Maud, on va aborder tout de suite cette question très controversée de la pensée de Paul, qui est souvent mise en avant pour dire « mais oui, mais de toute façon, dans l'Église, il n'y a qu'à lire ce que disait Paul ». C'est surtout le célibat qui est mis en avant et le mariage n'est qu'une concession faite à la nature, disaient certains théologiens.
Oh oui, cette histoire a fait couler beaucoup d'encre et Jean-Paul II sur ce sujet a été très précis et il a cherché justement à étudier plus profondément la pensée de Paul sur ce sujet-là.
Voilà, et donc effectivement, pour résumer un peu sur la réflexion de Paul, il y a une parole dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 7 qui synthétise peut-être le mieux sa pensée. Celui qui se marie fait bien, et celui qui ne se marie pas fait mieux encore. Voilà, c'est effectivement une le cœur peut-être de la réflexion de Paul. Par contre, dans beaucoup d'autres textes, Paul considère avec beaucoup de respect la légitimité du mariage, mais l'état de virginité lui semble effectivement, et là c'est justement beaucoup souligné par Jean-Paul II, en raison des conditions présentes, c'est-à-dire de le contexte dans lequel il était, notamment le contexte hellénique, il considère qu'effectivement, en raison de la situation, la vocation au célibat lui semble meilleure.
Mais il précise bien dans ses textes, quand il aborde cette question-là, que ce n'est pas un avis qu'il reçoit de la part du Seigneur, mais c'est un avis personnel, en homme digne de confiance. Donc par rapport à la situation présente, il lui semble meilleur de choisir le célibat pour le royaume. Il faut aussi reconnaître que c'était une telle nouveauté qu'il fallait largement insister pour le faire comprendre à des générations qui n'étaient absolument pas habituées à même envisager la question.
Voilà, et les paroles relevées par Jean-Paul II concernant celles de Paul, il dit bien, pour ce qui est des vierges, donc de la virginité, je n'ai pas d'ordre de la part du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui est digne de confiance. Et il s'explique, c'est en raison de la détresse présente. Je crois que c'est très important. Jean-Paul II, justement, reprend beaucoup ces textes en disant, attention, il ne parle pas que cette vocation est supérieure. Il dit, en raison de la situation, effectivement, cette vocation me semble meilleure. Et donc, Jean-Paul II va comme essayer de ramasser un peu la théologie de Paul concernant le mariage, le corps, la sexualité.
Voilà, donc Jean-Paul II rappelle toute la profonde estime de Paul pour le corps, pour la sexualité, pour le mariage, quand ils sont vécus sous le regard de Dieu. Et il insiste, par exemple, « Votre corps est un temple de le Saint-Esprit, glorifiez Dieu dans votre corps ». Puis il insiste aussi sur la considération qu'il doit y avoir entre les hommes et les femmes qui ont la même dignité. Dans le Christ, l'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme. Il va aussi concrètement avoir des gestes, je dirais, pastoraux très forts, puisqu'il implique beaucoup de femmes aussi dans son ministère. Il implique des couples, comme Priscille et Aquila. Donc il reconnaît la grâce propre de chacun dans ce qu'il apporte à l'Évangile.
Et il va même jusqu'à dire que le mariage est un grand mystère.
Absolument, parce qu'il est de grande portée, il s'applique au Christ et à l'Église. C'est-à-dire que le mariage est finalement le modèle pour comprendre l'union du Christ avec l'Église. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut absolument pas en conclure que Paul avait une image négative du mariage.
Voilà, c'est ce qui conduit Jean-Paul II, après de longs développements concernant les méditations sur la parole, sur les textes de saint Paul. Voilà ce qu'il dit dans son pour synthétiser sa pensée et sa réflexion dans Résurrection, mariage et célibat. Il dit voilà, finalement, les paroles du Christ rapportées par Matthieu et rapportées par les épîtres n'offrent aucune base permettant de soutenir l'infériorité du mariage ou la supériorité de la virginité ou du célibat. Sur ce point, dit Jean-Paul II, les paroles du Christ et de l'apôtre sont parfaitement claires.